Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. En cette fin d'après-midi, évidemment, nous parlerons football. Football d'abord avec les éliminatoires en Afrique. Le point après 4 journées disputées et un constat. Les favoris sont au rendez-vous. Pas de surprise parmi les 7 qualifiés de la CAN 2024. Mais des surprises sur certaines sélections en ballottage comme le Nigeria ou la RDC. En Europe aussi, des surprises comme cette défaite de la Roja en terre écossaise. Quelle douche pour l'Espagne et son nouveau sélectionneur. Impression laissée par ces deux rencontres, nous poserons la question ici dans ce studio. Et puis un invité de marque, comme on dit dans Radio Foot International, un invité dans cette émission pour un livre beau et bouleversant à la fois. Aka Zidane, publié chez Images Plurielles, qui nous emmène en Afrique à travers les maillots de foot que portent indifféremment hommes et femmes, agriculteurs, prisonniers ou combattants armés. Et ceci grâce à des photos signées Michael Jumstein. Bonjour Michael.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être dans cette émission. Vous êtes grand reporter photo et grand reporter tout simplement, en Afrique depuis des années. Hein.
Presque 30 ans, j'ose à peine le dire.
Bon, vous êtes aussi un auditeur de Radio Foot et ça, c'est très sympa pour nous.
Presque depuis 30 ans aussi.
Aussi, bon. Alors, tout va bien pour RFI et vous nous raconterez ce livre et cette originalité. Mais vous n'êtes pas seul, heureusement, dans ce studio. Il y a nos invités du jour et notamment, eh bien, on a invité le boss aujourd'hui dans notre studio.
Born down in the Denwest.
Oh! Oh là 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 là!
Je crois même que c'est vous qui l'avez enregistré,
quel accueil!
Ce live!
Magnifique!
Bonjour Hervé Penaud!
Quel bonheur d'être avec vous! Alors j'ai vécu une semaine exceptionnelle.
Vous
deux concerts de
Bruce
Springsteen. J'ai écouté RFI, bien sûr, entre deux concerts de Bruce Springsteen. C'était énorme! Énorme!
Aux States, comme on dit.
Aux States, hein? Entre Buffalo
the
et boss. Washington. Et maintenant,
il vieillit pas, The Boss?
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est de plus en plus jeune. C'est pour ça que je le regarde de temps en temps. Je me dis, peut-être c'est un bon des conseils à prendre de son côté.
Ouais, bon. Il y a aussi Sherif Guémour, habillé en rojo. Bonjour, Sherif Guémour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre ami de SoFoot.
Faire honneur à notre invité.
Ouais, mais vous avez mis un maillot de loser.
Comment ça?
Ah, Xavi, oui. Et puis, il y a une belle étoile quand même au-dessus de l'écusson royal.
On va parler de l'Espagne aussi.
De ce maillot. Et puis, Salim Baumgali est là aussi. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Tout va bien?
Très bien.
Très bien.
Ah ouais.
La trêve internationale.
Ah mais plein de choses à dire en plus. Plein de choses à raconter.
Oui, il y a eu plein de matchs. Et on commence. Émission préparée avec Pierre Guérin qui est revenu dans l'équipe.
Oh là,
il nous avait abandonné pendant quelques temps, mais là, il est de retour. Pierre Guérin, vous pouvez déjà lui envoyer les cartons de la semaine, il les attend. Ainsi que David Finzel, bien sûr, fidèle au poste. Et Alice Ménard qui est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
La passe vers Sadio Mané, allez, Sadio, il a du champ. À 3 contre 3, 3 contre 3, le décalage vers Boulaïa, Boulaïa, la percée de Boulaïa, la frappe et le but. Quel but exceptionnel de Boulaïa, l'ouverture du score.
Maloul, le sort bien joué, la tête. Et voilà le but pour la Tunisie. Jouini bien placé, seul. La Tunisie mène en Libye et s'envole vers la CAN.
Dembélé to feed Percy Tau, which he has done. Percy Tau's visited across the box and converted. Maya Bela following up to score for Bafana Bafana.
Passées les 4 journées éliminatoires en Afrique, 7 nations sont donc déjà assurées de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, évidemment, en tant que pays hôte de la compétition continentale, le Maroc, l'Algérie et le Sénégal, on le savait cela depuis hier, et rejoint donc par la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Écoutons le numéro 10 des Lions, champion d'Afrique, Sadio Mané, au micro de Babacar Fall.
On a montré qu'on fait partie des grandes équipes en Afrique et aussi on a été costaud mentalement. Et oui, on a suggéré le match du début jusqu'à la fin, même s'il y avait le public derrière eux. Je pense qu'on est resté concentré, on est resté tranquille sans se paniquer. Je pense que c'est aussi la marque des grandes équipes. Maintenant, on va essayer de préparer les deux prochains matchs qui nous restent pour bien terminer les qualifications et pouvoir préparer la prochaine CAN.
Sadio Mané, le champion d'Afrique, de retour en plus dans l'effectif du Bayern Munich. Hervé, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire que, en gros, à l'appel, les plus importants sont là déjà.
Oui, oui, déjà, on a. Il n'y a pas de grosse surprise. Alors, il y a toujours quelques interrogations. L'interrogation, toujours que RDC.
On va en parler des absents après.
Mais en ce qui concerne les qualifiés, là, vraiment, ils ont assumé leur rang. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais. Parce que c'était important aussi pour ces équipes-là de montrer qu'en Afrique, on est capable d'avoir de la continuité. Ouais. Et c'est du côté du Sénégal, du côté de l'Algérie, du côté du Maroc.
Ben, alors, le Maroc a joué des matchs.
Oui, mais
c'était au bénéfice d'autres résultats.
Je parle des grosses équipes de manière globale. C'était important, c'est de montrer qu'on est capable d'assumer des statuts nouveaux. Et ça, c'est important parce qu'on a vu parfois des équipes qui faisaient des bonnes cannes et qui n'étaient même pas capables de se qualifier pour la canne suivante. Alors, c'est vrai que là, c'est une canne à 24, donc ça aide quand même, il y a quand même beaucoup plus d'ouverture. Mais se qualifier déjà assez vite comme ça, c'est une manière aussi de rappeler qu'il y a des grosses équipes qui sont aussi en Afrique. C'est assez important.
La seule équipe, pardon chef, qui a déçu, entre guillemets, dans les gros noms, j'entends par là, c'est le Cameroun au final, qu'on attend en plus dans un groupe A3, hein, faut-il le rappeler.
A3.
Et qui, au final, avec Rio Versong, ça marche beaucoup moins, en tout cas sur ces dernières semaines. Là, une défaite encore. Là, c'est juste les Lions indomptables qui sont très
désormais. Une victoire, un nul et une défaite. Pas terrible comme bilan à 3 matchs.
Ouais. Oui. Sur les qualifiés et sur les grandes équipes qui sont assurées d'être à Abidjan, Chérif.
Non, mais Hervé a raison. Il y a vraiment, on sent que chez les grosses équipes qui sont en train de le redevenir, il y a une exigence. C'est vrai qu'avant, on pouvait voir des grosses équipes qui galéraient un peu plus. Après, je mettrai un petit bémol avec le Ghana et l'Égypte. C'est pas l'autoroute pour
ces équipes. Ça l'est très rarement. Ça l'est très rarement, bizarrement, pour les Ghanéens et parfois aussi pour les Égyptiens dans les qualifs.
Tu vois, ils sont bien placés.
Ils sont leaders de leur groupe.
Ils rament un peu.
Bien sûr, tout à fait. Non, c'est bon. C'est bon.
Alors, en fait, moi, je voulais juste mettre le doigt, c'est sur une qualification, et c'est la première fois que ça arrive avant la fin des qualifications pour cette équipe, c'est celle des étalons quand même. Le Burkina Faso, déjà qualifié à l'issue de la 4e journée. Écoutons le sélectionneur Hubert Vélude.
Notre qualification est méritée pour l'instant. En tout cas, je tiens à dédier cette qualification pour la CAN au peuple burkinabé, comme vous le savez, qui souffre beaucoup. Je suis très heureux ce soir parce qu'on vient de me dire également que je crois que c'est la première fois que le Burkina Faso se qualifie deux matchs avant la fin des groupes de qualification. Donc ça, c'est un élément très important. On est très heureux par rapport à ça. Il y avait beaucoup de concentration, beaucoup de combativité chez les joueurs. Les joueurs ont respecté les consignes pratiquement à la lettre. Donc on a, je le répète, on a beaucoup gêné cette équipe et à l'arrivée, il y a un résultat positif pour nous.
Hubert Vélude au micro de Gabriel Barrois. Peut-être une confirmation aussi du côté du Burkina, Hervé.
Ah oui, non, ça fait plaisir. Bon, parce qu'on connaît la situation déjà sécuritaire du pays, donc on est très très content. Parce qu'il faut avoir aussi des moyens aussi de se réjouir quelque chose.
On joue pas devant son public déjà. Malheureusement, notamment au Burkina.
Ouais, c'est compliqué, mais c'est important aussi d'avoir cette possibilité aussi d'avoir la joie dans un pays qui est vraiment en grande souffrance. Donc on est tous contents. Puis c'est une équipe ultra sympathique. Mm-hmm. C'est vrai qu'on n'aime pas afficher ses préférences, mais c'est bien une équipe
avec
sympa.
Bertrand Traoré. Et
on voit Dango Ouattara qui a marqué d'ailleurs durant ces matchs. Donc ça fait vraiment plaisir. On voit qu'il y a du potentiel. Il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Il y a pas mal de jeunes qui fonctionnent bien. Alors, ils n'ont pas fait un énorme match là, mais ils sont imposés. C'était l'essentiel. Et c'est important parce que c'est une équipe qui peut être vraiment un outsider de la prochaine CAN. Rappelons-nous ce qu'ils avaient fait la dernière fois.
La dernière fois.
Et s'il n'y avait pas eu ces petites erreurs de gardien de but, et encore quand je dis petites, ces grosses erreurs sur la fin de match pour la troisième place, ils étaient quasiment assurés de cette troisième place. Hein. Et c'est finalement le Cameroun qui l'a récupéré.
Vous avez évoqué Dango Ouattara, c'est vrai qu'il est à Bournemouth, hein, faut-il le rappeler maintenant. Il est plutôt intéressant d'ailleurs avec le club anglais. Et c'est vrai que de le voir comme ça, à cet âge-là, en plus prendre ses responsabilités, c'est vraiment intéressant.
Parce qu'on l'avait vu évoluer en France.
Pratiquement tous les matchs. Hein.
Et en Angleterre, il est vraiment bon avec Bournemouth, qui va peut-être réussir à se maintenir grâce à lui. Et là, il prouve qu'il a les qualités, en tout cas pour être titulaire indiscutable en sélection.
Alors évidemment, et vous avez déjà un peu dévoilé certains noms, il y a des absences qui surprennent, au moins qualifiées au bout de la quatrième. Il y a pire pour certains. On a regardé ceux qui n'iront pas, c'est sûr, déjà à la CAN, ou ceux qui ont très 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 peu de chance, parce que je crois que certains, il faudrait qu'ils marquent 16 buts. C'est le Lesotho, Sao Tomé, Principe, ou encore les Baréa, malheureusement, de Madagascar, qui nous avaient enchantés. Eric Rabessandratana est bien triste. En tout cas, Nicolas Dupuis a démissionné, mais on savait, il avait prévenu que quel que soit le résultat, c'est-à-dire qu'elle soit qualifiée qualifier ou pas, c'est Barraya, il allait quitter l'équipe. Alors, absence pêle-mêle, vous l'avez dit, Mali, Cameroun, Égypte et Ghana, et puis RDC et Nigeria. Les Super Eagles.
Un mot, juste à dire, ce qu'a fait la Guinée, c'est très fort aussi, de gagner deux matchs comme ça. En Éthiopie, c'est pas rien, ouais. Notre ami Sega Diallo, mais c'est une belle performance, même pour Kabadiawara, c'est important, on savait qu'après
on
la CAN, ça avait été compliqué.
On l'a entendu sur les antennes de RFI, effectivement.
Donc, c'est beaucoup de la Guinée.
Et eux, ils sont bien partis aussi. Alors, les Super Eagles, selon vous, qu'est-ce qui leur arrive? Chérif Guémour, on a quand même dans cette équipe quelques noms, Victor Osimhen, Terem Moffi, Moses Simon, Ivo Bi, et on perd face à un adversaire en Guinée-Bissau.
C'est incompréhensible.
1-0.
C'est incompréhensible. La dernière CAN, ils avaient fait un bon début. Et avec toutes les personnalités qu'ils ont, on a du mal à comprendre. J'ai pas d'explication. Après, bon, c'est pas fini. Mais,
est-ce que c'est du côté Hervé ou Salim sélectionneur? Est-ce que c'est contexte?
Ils ont mis quand même les choses en place. Là. Ouais, ils ont mis les choses en place avec le match retour, en gagnant à l'extérieur. Et en
étant leader. Chez eux, à Abuja, et ils vont gagner
en étant leader quand même de leur groupe. Hein, ils ne devraient pas y avoir de
soucis. Ils ne sont pas qualifiés encore. Ils ont 9 points.
Mais ça a toujours été très compliqué pour eux. Nigeria, des fois, ils font des éliminatoires très, très bizarres.
Oui, avec Ernest Rohr, on se souvient.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un potentiel incroyable, on le sait. Mais malheureusement, alors en place, là ils ont un sélectionneur, on sait pas, logiquement ça doit aller jusqu'à juin, on sait pas ce qui va se passer par la suite. Voilà. Il y a du monde, mais il n'y a pas encore d'esprit d'équipe en quelque sorte. En revanche, quand ils arrivent en CAN, ils sont souvent là.
Juste le mot potentiel que vous évoquez, potentiel offensif. Les noms que vous avez évoqués, Chukwueze également qu'on peut rajouter, c'est souvent presque ça avec le Nigeria. En revanche, pardon, mais c'est derrière où là le bas blesse quand on voit cette équipe derrière depuis une ou deux générations, en tout cas une ou deux grandes compétitions, où là je suis plus inquiet pour le coup, où j'ai plus de fragilité. Ouais, offensivement, il y a des occasions.
Mais au milieu de terrain, il y a encore du monde.
Lors de la dernière CAN, ils avaient impressionné au premier tour.
Après,
ils se sont écroulés, éliminés très rapidement.
Salim a raison, c'était surtout devant, en fait, parce qu'on a vu les faiblesses derrière, après, par la suite de la compétition.
Ouais, mais non, devant, ça, c'est top, mais c'est derrière que ça m'inquiète.
Mais quand même, c'est une équipe qui nous a habitués à la Coupe du Monde. Ils étaient toujours là. Ils allaient au moins en huitième de finale. Et là, on a l'impression que l'étoile pâlit un peu quand même. Chérif.
C'est le Nigeria. Après, quand on regarde un peu l'histoire du Nigeria, c'est des hauts et des bas. C'est les années 90, c'était la première nation africaine. C'est justement, on en revient à ce que disait Hervé tout à l'heure, c'est ce qu'on a souvent reproché aux équipes africaines, c'est la continuité, aussi bien dans les compétitions internationales comme la Coupe du Monde ou la CAN, à travers les compétitions ou les éliminatoires. Et là, tout n'est pas perdu non plus.
Il n'y a pas un défaut de génération, là, quand même. Non, mais
des joueurs, le problème, c'est la structuration au Nigeria, il ne faut pas se mentir. On sait très bien que c'est très, très compliqué là-bas.
Déjà, au poste du sélectionneur, il y a une instabilité chronique.
Et puis, savoir si les joueurs veulent venir, pas, avec quel état d'esprit parfois ils viennent, ce n'est pas toujours simple.
Oui, il y a des problèmes dans la fédération.
Mais en revanche, sur une CAN, là, ils sont capables de se mobiliser. Ce n'est pas parce qu'il y a deux ans, et ce qui s'est passé au Cameroun, il y a deux ans maintenant. Mais un an. Non, deux ans.
Non, c'était
l'année dernière, c'était en 2022.
En janvier 2023.
Ouais, 23.
Donc
22,
ça fait un
peu... ouais, attends, même si c'est passé.
2022,
sinon, ils sont souvent dans le dernier carré quand même. Donc, c'est une équipe qui a des potentialités. Malheureusement, c'est un défaut de collectif.
Michael Zumstein, vous qui vous promenez beaucoup en Afrique, est-ce qu'au Nigeria, il y a cette passion football? Est-ce qu'on la voit dans la rue? Est-ce qu'on la voit encore? Est-ce que ça change?
Oui, il y a quand même une constante un peu partout en Afrique, et spécialement au Nigeria, qui est une nation tellement incroyable de football. Et partout où je vais, et spécialement au Nigeria, il y a encore un petit peu des terrains de foot dans la rue, et ça joue partout. Et ça, c'est quand même assez merveilleux.
Il y a encore de la place pour le football de rue?
Un petit peu, tant qu'il n'y a pas des immeubles géants qui leur prennent la place.
Ouais.
C'est une mosaïque en plus, le Nigeria, donc c'est un peu la sélection qui fait tenir un peu tout ça, quoi.
Oui,
C'est vrai que c'est très compliqué. Pareil, c'est un pays pas simple.
Ouais.
Et la fédération, pas une fédération simple non plus.
Mais oui,
et entre les joueurs qui parfois veulent venir, n'acceptent pas de venir. Mais rappelons-nous Osimhen qui rate la dernière CAN, par exemple. C'était pas rien pour eux. Alors, il s'était blessé peu de temps avant le début de la compétition. Enfin, il a quand même pu reprendre avec Naples assez vite. Donc, c'était... Si vous n'avez pas ce sentiment d'appartenir à une équipe nationale où vous vous sentez vraiment investi d'une sorte de mission, c'est pas toujours simple d'avoir des résultats.
Et ben justement, parlons de la RDC. Alors, on connaît les problèmes autour de la fédération et de la sélection. 4 points sur 6 pris. Évidemment, souligné le sélectionneur nouveau, le français Sébastien Desabre. Mais 4 points sur 6 en 2 matchs, mais c'est pour l'instant leur seul point. Ils ont 4 points, ils sont toujours derrière. Dernier de leur poule, le Gabon est devant, le Soudan aussi, voire la Mauritanie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas pour le Congo, Salim ?
Mathématiquement, vous avez évoqué les chiffres, oui. Après, il y a quand même des faits. Et le fait, hier en tout cas,
ils jouent contre la Mauritanie, match aller-retour. Ils ont réussi à jouer à Lubumbashi en dépit de tous les problèmes de stade. Et le match retour était à Nouakchott.
Ils ont gagné 3-1 au match aller et 1-1 au retour, donc en Mauritanie. Avec cette séquence et ces séquences, parce que l'arbitre, pour le coup, a été très critiqué. Il faut bien la voir à juste titre quand on voit certaines séquences. La RDC, Bakambu qui égalise pour l'équipe de RDC. Et là, on voit les joueurs de la RDC qui vont récupérer rapidement ce ballon. Et là, un coup donné par Mbaye, Bapakar Mbaye, le gardien mauritanien. Un vrai coup de pied. L'arbitre qui dit rien. Bon, ça va, ça joue alors que quand même il y a eu un vrai coup pour le coup. Et quelques minutes plus tard, en seconde période, Bakambu, il y a une passe en retrait d'un défenseur mauritanien pour son gardien. Le gardien qui attrape le ballon à la main, il y a un petit souci quand même de règlement. Et là, Bakambu qui arrive juste à côté, qui, je précise, ne touche pas le gardien. Le gardien tombe et là, l'arbitre, vous l'avez touché, deuxième jaune, carton rouge pour Bakambu. Incroyable séquence d'arbitrage et des erreurs d'arbitrage manifestes.
Il n'y a pas eu un coup franc direct,
même. Non, ça a été rendu à la Mauritanie, alors que je vous ai bien parlé de passe en retrait et gardien qui a pris le ballon de la main. Bref, des séquences assez folles. Alors, c'est pas pour ça que le RDC aurait gagné, mais quand même des séquences assez dingues quand même pour cette équipe de RDC. Et donc, Bakambu qui jouera pas les.
Non, ces matchs.
Et donc, Bakambu qui jouera pas les matchs suivants pour la RDC. C'est un manque.
On a vu notamment le match du Cameroun. Il y aurait eu facilement un pénalty en faveur de la Namibie, alors que c'était déjà 2-0, et qui n'a pas été sifflé.
Le fait qu'il n'y ait pas le VAR, c'est un vrai souci. Hein, ça, il n'y a pas de doute, parce qu'il y a eu un niveau d'arbitrage sur les phases éliminatoires, sur certains matchs, qui faisait un petit peu peur.
Et alors la RDC, est-ce qu'elle sera la prochaine CAN ?
Franchement, c'est une équipe tellement compliquée à gérer. Le groupe n'est pas simple. Faut pas oublier.
Parce qu'il y a des qualités. Hein.
Non, et puis il y en a qui ont pris de l'avance.
Absolument.
Le Gabon,
c'est serré. Le Gabon a perdu. Donc tout est un peu dans un mouchoir quand même. Hein. Il reste deux matchs. Il y a possibilité à peu près pour toutes les équipes de se qualifier. La RDC, mais moi, c'est un des plus gros gâchis. Pour moi, je le dis tout le temps. Hein. Pour moi, il y a deux pays gâchis absolus. Parce que le Nigeria, je ne le mettrais pas au même niveau parce qu'ils ont quand même montré des choses dans l'histoire du football quand même continental, même à l'échelle mondiale. Alors que la RDC, avec les potentialités qu'il y a dans ce pays, mais c'est absolument phénoménal. À chaque coin de rue, vous pouvez découvrir un super joueur quasiment. Alors, j'abuse un peu, mais je ne suis pas loin de la vérité. Et puis, au final, vous n'avez aucune équipe. Donc, c'est lié. Vous savez, moi, je compare les situations politiques des pays aux situations sportives. Mmh. Et malheureusement, il y a quand même un rapport qui est important. Et on sait que c'est un pays aussi compliqué. Et l'équipe nationale est très compliquée.
Un rapport a été fait par l'Institut congolais de recherche Ebouteli. Et puis, ils ont fait ça à deux avec le groupe d'études sur le Congo, le GEC. Et le rapport s'intitule « Jeu de pouvoir, pouvoir du jeu, football et politique en RDC ». Et notamment, ils disent « Le football congolais est plus marqué par les pertes de vitesse et les contre-performances que par les victoires continentales. »
Tout à fait.
Et malheureusement, c'est
ce qu'on
peut constater. Terminons juste cette suite de constatations autour des éliminatoires. Rwanda-Bénin. Dans le fameux stade de Houillé, donc, le match a eu lieu tout à l'heure. Et à la fin, ça a donné un match nul, 1-1, comme au match aller d'ailleurs, entre les deux équipes. Vous avez vu ce résultat, Salim Boumgali ?
Oui.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Dans ce stade, j'ai presque envie de dire, parce que, on évoque le résultat, et à juste titre, vous avez raison d'évoquer le résultat, le 1-1 pour le coup. Mais moi,
hors fenêtre FIFA, on en a beaucoup parlé hier.
Oui, puisque la fenêtre FIFA officiellement s'est arrêtée hier, justement. Hein, pour
avec
le coup.
Certains joueurs donc absents.
Exactement, puisqu'ils avaient le droit d'être rappelés en club. Donc déjà, effectivement, il y a cette séquence assez folle. Et encore une fois, j'insiste sur le stade. Quoi. Pour le coup, c'est assez affolant de...
Alors le stade était énorme. C'était en fait l'hôtel des joueurs qui ne l'était pas. Mais en tout cas, il avait été suspendu.
Alors là,
et tout d'un coup, miraculeusement, il ne l'était
pas. Moi, j'ai un coup de gueule à pousser parce que je suis scandalisé. Vous savez, je suis le football africain quand même depuis des années. Et j'ai l'impression que la CAF est toujours capable de creuser. Ça, c'est quand même magnifique. Le pire est toujours à venir. Donc, ce qui s'est passé, pour moi, c'est un pur scandale. Parce que le fait de délocaliser à la dernière minute comme ça, contraindre les Béninois déjà à passer 150 000 coups de fil pour avoir l'accord des clubs pour permettre à certains joueurs de pouvoir jouer. D'ailleurs, certains n'ont pas pu jouer tout le match. Hein. On prend Mounier qui est rentré qu'à la 73e.
30 minutes seulement.
Voilà. Il est rentré à la 73e minute. Encore, parce que, et encore, par la chance que Brest accepte de le faire, parce qu'ils auraient pu aussi ne pas l'accepter. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est un manque de respect pour le football du continent. Ce qu'est en train de faire la CAF, c'est absolument inadmissible. Alors pourquoi ? Il faut savoir pourquoi ça s'est fait. Parce que tout simplement, le maître du jeu dans l'affaire, c'est Paul Kagame, le président du Rwanda, qui avait reçu effectivement le congrès de la FIFA. Et les liens entre le Bénin et politique, hein, entre le Bénin et le Rwanda sont assez étroits. Et donc, les Béninois n'ont rien dit. Alors, vous savez, maintenant, ils se font appeler les guépards, si je ne m'abuse, hein, c'est ça.
Oui. Ils espèrent peut-être. Mais je pense qu'ils sont restés des petits écureuils.
Pour l'instant, c'est des écureuils. les guépards sont les crocs.
Ça n'a pas beaucoup influé sur le résultat, en tout cas.
Oui, alors ce qui est gênant, c'est de voir que quelqu'un comme Kagame donc, a pris le pouvoir aussi sur le football africain et que personne n'est capable de dire quelque chose. Absolument, et c'est absolument scandaleux. Donc voilà, moi, ça, à un moment, je me suis dit, il ne faut pas oublier une chose quand même qui est importante, c'est que si Patrice Motsepe est président de la CAF aujourd'hui, il le doit aussi en grande partie à Paul Kagame. Donc finalement, tout le monde se rend des services, tout le monde est gentil. Donc ça fait plaisir aux instances de la CAF. Mais aujourd'hui, franchement, ce qui s'est passé là, c'est purement inadmissible et c'est un pur scandale. Et j'espère que ça ne se reproduira plus. Autant vous dire que c'est un vœu pieux, puisque ça se reproduira. Mais on nous avait tellement critiqué les anciennes CAF.
Voilà,
absolument. On nous avait tellement taillé les anciennes CAF. Vous allez voir ce que c'est que la nouvelle CAF. Et bon, on voit. Merci.
Merci. En tout cas, il reste deux journées dans ces éliminatoires, mais elles ne se joueront pas en même temps. Hein. Il y en aura une en juin et une en septembre. On fait durer le plaisir en Afrique. En Afrique, eh bien, on y va. Un tour sur les talons de Neymar, Zidane, Cristiano, Messi, Torres. Hein. Ils ont tous labouré la terre africaine. Mais c'est avec vous, Michael Zumstein.
Je réponds au nom de Moïse Baïzire. Je suis le gérant titulaire de Meladen Club ici à Baraka. Nous, on allume la télé pour que tout le monde en profite de regarder tous les matchs, que ce soit la Liga ou quoi. Donc tout ça passe ici. C'est vrai qu'ici chez nous, il y a tant de loisirs. Si tu veux danser, tu danses. Et si tu veux regarder les matchs, c'est votre choix. Ça dépend maintenant de vous. C'est tout.
Mais moi, je suis fanatique de Barcelone. Vraiment, je viens souvent pour regarder le Barça à Cabezas. Moi, nous aimons beaucoup le football.
Un grand salut à tous nos amis du côté de Baraka et Bukavu que l'on avait rencontrés il y a quelques années autour du thème, bien sûr, du football. Alors, dans ce livre, on peut lire, Michael Zumstein, qui sont ces doubles de footballeurs mondialement connus, mais qui vivent, eux, non pas des matchs exceptionnels ou mémorables, mais un quotidien ordinaire ou tragique. Alors, vous allez nous expliquer qui sont ces héros anonymes. D'abord, qu'est-ce que c'est Alors, vous allez nous le révéler, vous le dites dans le livre, ce qu'est AKA Zidane.
Alors, AKA, c'est l'acronyme en anglais, donc de Also Known As, c'est-à-dire aussi connu sous le nom de. Et là, c'est aussi connu sous le nom de Zidane, puisque évidemment, le nom de Zidane est porté sur énormément de maillots de foot. Et je l'ai rencontré là-bas, en Afrique.
Vous avez rencontré Zidane ?
Eh bien, presque. Son double.
Alors, il a beaucoup de doubles, je crois. Ces maillots, d'abord. Comment vous est venue l'idée de faire... Alors, vous aimez le foot, vous avez beaucoup pratiqué, vous avez beaucoup joué à titre amateur ici.
Avec David Finzel, à mon avis, non ?
En Ile-de-France, il paraît. Ils se sont reconnus tout à l'heure dans le bureau, 30 ans plus tard. Comment vous est venue l'idée de faire ce livre ?
Eh bien, ça remonte à l'enfance, puisque quand j'étais petit, on m'a offert un maillot de foot, mais c'était étrangement le maillot de foot de l'équipe d'Écosse. Il n'y avait absolument aucun joueur connu, évidemment, écossais. Mais dans un album Panini, je me suis trouvé un héros, Gordon Strachan, absolument inconnu pour la plupart des auditeurs. Et depuis, j'étais obsédé par le nom des joueurs de foot sur les maillots de foot. Et donc, en Afrique, de par mon métier de reporter, de photojournaliste, j'avais toujours un œil sur ce que portait dans le dos un vendeur dans un marché ou un taximan. Et je regardais le maillot de l'équipe d'Espagne. Et là, je reconnaissais des noms. Et ça m'a particulièrement intéressé parce que je crois qu'à travers les noms, on peut acquérir évidemment une petite gloire, une petite renommée, mais aussi un petit peu plus. Quand on a un joueur qui a la classe, qui a de l'élégance, et ben on acquiert aussi un petit peu de cette personnalité-là et ça donne une identité. En tout cas, on peut aussi s'imaginer un petit peu ailleurs que dans son quotidien.
Ceux qui portent ces maillots de foot, alors maintenant, il y a toujours le nom hein, inscrit derrière. Est-ce que ça leur vaut le surnom ?
Alors souvent. Souvent, on peut interpeller quelqu'un dans la rue et on lui dit ben, « Tiens, toi, Zidane, viens ici ». Et c'est devenu presque une reconnaissance, en fait. Et dans le quartier, que ça soit à Bamako ou que ça soit à Ouaga, et ben, on me dit ben, « Tiens, va là-bas, tu tournes et tu rencontreras Xavi ou un autre joueur comme ça ». Et c'est comme ça aussi que ça fonctionne.
Alors une question, est-ce que ce sont des vrais ou des faux maillots?
Alors là, je vais pas m'aventurer. Quand c'est au Nigeria, c'est des faux. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Non, pour la plupart, c'est quand même des faux et qui sont d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, pour la plupart, fabriqués au Nigeria, qui inondent le marché de maillots de foot et de faux maillots de foot. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se fabriquent très, très rapidement, ces maillots de foot. Et un buteur d'une journée de Coupe d'Afrique des Nations, qui a réussi à qualifier son équipe, peut-être un arrière droit par exemple, pas forcément un attaquant, ouais. Et ben presque une semaine après, on va retrouver son nom sur les maillots de foot qui sont vendus dans les marchés.
Mmh. Avec des fautes d'orthographe, des fois peut-être non.
C'est possible aussi, ça.
Je dirais, c'est avec un J, I,
c'est vrai, ça peut arriver.
Salim, si vous et Chérif êtes là aussi, c'est parce que, bon, alors Chérif, il a mis son beau maillot de la Roja.
Non, mais, c'est un réplica, celui-là.
Mais vous, souvent, vous en avez des... Oui, mais ouais. Peu importe, on n'en est plus à ce niveau-là. Chérif, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous venez souvent en portant un maillot, et je me souviens du lendemain de la finale de la Coupe du Monde, vous avez voulu faire plaisir à notre réfé, vous avez mis celui de l'Argentine. Salim, vous en avez plus de 700 dans votre armoire. Oui. Ça vous parle, j'imagine, ces photos?
Oui, parce que une photo, donc un nom, je le dis souvent, photo, nom, Madeleine de Proust. Je me dis toujours qu'un maillot, pour moi en tout cas, un maillot, c'est une Madeleine de Proust, c'est une histoire, soit perso, soit d'un match particulier, soit d'un... Ça me rappelle toujours un petit truc. Là, le Xavi, par exemple, que je vois sur le dos de Chérif, le mot Xavi, ça me rappelle un match particulier. Par exemple, c'est forcément durant sa Coupe du Monde 2010, tout ce tournoi qu'il a pu faire, etc. Moi, il y a des maillots comme ça qui me rappellent des choses. Je dis n'importe quoi. Un jour, je suis à Nantes, à la Beaujoire, sur le terrain, Nantes vient de monter en Ligue 1. Et il y a un joueur de Nantes, Issa Sissoko, qui lance son maillot, je le récupère. Ah, coup ouais. De chance, je le récupère, il est en train de fêter son truc, et je l'ai chez moi. Il y a plein de trucs comme ça que je pourrais vous raconter, parce que pour moi, et ces photos-là me parlent, absolument. Et vraiment, tous ces maillots ont une histoire de match, une histoire perso, une histoire d'achat peut-être, une histoire de don de maillot. Bref, il y a tellement d'histoires, je pourrais quasiment sur tous mes maillots vous sortir une histoire.
Mais alors, à la différence de certains pays, en Afrique, on porte beaucoup les maillots, on voit ça aussi en Amérique du Sud. J'imagine qu'en France, vous sortez rarement habillé avec un maillot de foot.
Absolument, là c'est plus pour jouer éventuellement, mais moins pour sortir, hein. Absolument.
Parce que c'est ça aussi en Afrique, Michael, on voit beaucoup de gens habillés en maillot de foot, alors peut-être au lendemain d'une victoire de Chelsea à l'époque de Drogba ou des choses comme ça, c'est ça?
Oui, mais on peut aussi l'observer dans toutes les couches de la population, dans toutes les couches sociales, et pas seulement chez les hommes et les jeunes hommes, il y a aussi beaucoup chez les femmes. Dans le
Absolument.
Livre Akazidane, je photographie une jeune agricultrice qui revient de son champ. Bon, elle porte le maillot de Rooney, mais j'ai photographié beaucoup
avec
de femmes.
Avec un pagne en dessous.
Avec un pagne en dessous, c'est absolument magnifique. Mm-hmm. Mais on le retrouve, ce maillot, chez les enfants, évidemment, et dans toutes les couches de la population. Et c'est ça aussi qui m'a interpellé, parce que peut-être que c'est un grand frère qui l'a donné, peut-être qu'il passe en effet de génération presque en génération aussi, et c'est ça aussi qui m'a interpellé.
Est-ce qu'en Afrique, on suit la mondialisation au même titre qu'on la suit en Europe, c'est-à-dire avec une prééminence des maillots anglais? Parce qu'on sait qu'en Europe, et pas mal en France, puis je le vois de toute façon dans mon quartier, les lycéens, les collégiens, il y a quand même une grosse tendance, maillot anglais, Manchester United, Chelsea, Liverpool.
Alors, c'est vrai qu'on l'observe de plus en plus, mais c'est très lié aux retransmissions de télévision, télévisuelle. C'est-à-dire que quand la Ligue anglaise commence à prendre de plus en plus d'ampleur et de retransmissions, et qu'il y a de plus en plus de joueurs africains aussi qui jouent en Angleterre, et ben à ce moment-là, en effet, il y a de plus en plus de motifs, on va dire, d'identification. Ouais. Et à ce moment-là, on refabrique des maillots anglais, par exemple.
Hervé ?
Alors moi, sur tous mes voyages, j'ai quand même deux clubs qui m'ont remarqué. C'est Barcelone et le Real Madrid. Parce que c'est un peu la guerre que sont
c'est le cas en Algérie, je confirme.
Oui, en Algérie, absolument. Ouais. Et c'est un peu la guerre entre Messi et Ronaldo. C'est-à-dire qu'on avait les deux meilleurs joueurs du monde dans le même championnat. Alors, mettant, c'est différent. Effectivement, je pense que les maillots anglais vont prendre de plus en plus d'importance.
Ouais,
on parlait. Mais bien sûr, ce qui est la symbolique, c'est d'avoir un joueur originaire de son pays, ou en tout cas qui porte les couleurs nationales, qui joue dans un club. Donc aujourd'hui, je suis persuadé qu'au Sénégal, vous allez trouver du Bayern Munich à
Liverpool en Égypte.
Du Liverpool en Égypte. Et c'est normal, on est attaché aux joueurs qu'on aime. Et c'est assez magnifique. Hein. Le nombre de gens qu'on voit effectivement avec des maillots et partout, c'est top niveau. Et c'est vrai qu'on voit là le poids des joueurs aussi. Hein. Alors Mané, j'en parlais. Mané, mais c'est sur toute l'Afrique, évidemment. Qui n'aime pas Mané en Afrique quand on aime le football? Donc on va se retrouver avec un Mané partout. Un Mané en Tanzanie, un Mané et un Salah à peu près partout. Donc c'est superbe.
Michael, est-ce que ça vous a amené à parler football avec ces gens-là particulièrement? C'est-à-dire, vous voyez, je ne sais pas, vous admirez tel ou tel joueur. Quelqu'un porte le maillot. Est-ce que vous allez lui parler de Messi ou de Cristiano ou de Zidane?
Oui, c'est même un moyen assez important pour moi quand on est photojournaliste de rentrer en contact avec les gens. Je vois le maillot de l'équipe d'Espagne. Pendant la guerre civile en Centrafrique en 2014, je photographie un groupe d'anti-balaka. C'était la première fois qu'on arrivait à les identifier, en tout cas à les retrouver. Et dans ce groupe, un des jeunes hommes qui porte un fusil porte le maillot de l'équipe d'Espagne. Et moi, de façon assez étonnante, je me dis, mais quel nom il a dans le dos? Et donc, on discute, chacun est un petit peu sur ses gardes, mais je discute, et je dis, ah, t'as le maillot de l'équipe d'Espagne, et je regarde derrière, c'était Torres, qui avait, l'Espagne venait pas très longtemps avant de gagner la Coupe du Monde, et on a pu discuter et établir un semblant de confiance, et on a pu les interviewer et faire des images après. Donc oui, évidemment, le football, de toutes les façons, on le sait, c'est complètement universel, parce qu'on peut se retrouver dans des joueurs communs qu'on aime, dans des équipes communes qu'on apprécie, et là, dans ce cas-là, c'était super important pour mon reportage de rentrer en contact avec eux à travers le foot.
C'est marrant, j'ai le même réflexe que notre ami. Je crois que je vois un maillot, enfin quelqu'un qui arrive de face, je veux absolument voir le nom. C'est idiot.
Alors des fois, c'est le nom de la personne. En plus, on peut
Mais c'est vraiment un réflexe. J'ai vraiment envie de savoir, s'il a bon goût, s'il a fait le bon choix.
Sur votre livre, la dernière page, c'est pas la page de garde, mais l'opposé, c'est une photo très frappante. Et en plus, pour moi qui aime bien le Brésil, c'est ce Neymar en position et qui tient un fusil à la main. Et là, où était-ce cette photo?
Alors, c'est une photo à nouveau.
C'est un méchant, là.
C'est une photo à nouveau en Centrafrique. C'était au moment des opérations de DDR, démobilisation, désarmement. Et c'était assez particulier ce moment-là parce que tout le monde avait des armes et tout le monde venait avec des maillots de foot. Le maillot de foot est aussi quelque chose qui peut s'acheter pour pas très cher et qu'on se redonne. Et à ce moment-là, c'était une opération de l'ONU qui avait un peu raté son opération de désarmement, puisqu'en fait, les gens fabriquaient des armes juste à côté du centre de désarmement et l'ONU donnait 30 euros. Et à ce moment-là, j'ai vu un afflux incroyable de joueurs de foot qui venaient avec des armes, qui venaient juste d'être fabriquées. Et évidemment, voir Neymar, la star du football, avec un fusil, c'était assez choquant. Mais on avait toutes les autres grandes stars du football qui venaient déposer leurs armes.
Et facilement, vous pouvez prendre les photos. Les gamins disaient « Oui, prends-moi en photo, pas de problème ».
Oui, parce que justement, je parle foot assez rapidement avec eux. Et ça, c'est vraiment le terrain, si je peux m'exprimer ainsi, d'entente. Et ça ne posait pas de problème à ce moment-là. En plus, ils venaient toucher 30 euros pour récupérer les armes. Mais je l'ai dit tout à l'heure, en Centrafrique, c'était une situation beaucoup plus tendue. Et là, en effet, à nouveau, c'était une possibilité de communication.
Ces gens qui portent des maillots de foot, ça révèle pour vous une passion vraiment vraiment pour le football, il s'intéresse au championnat, il regarde les matchs, ou parfois aussi ça peut être un hasard, on prend ça dans l'armoire comme on prendrait un autre t-shirt.
On trouve de tout, Annie, vraiment, c'est très très varié. Pour la plupart quand même, il y a une connaissance. Il y a une connaissance, il y a une envie de ressembler, il y a une envie de s'évader aussi. Et comme on la partage, j'ai presque parfois aussi envie, moi, d'avoir un maillot de foot. Mais oui, ils connaissent, on sait que sur le continent, il y a des connaisseurs et des amateurs de foot absolument incroyables. Et pour la plupart, ils connaissent. Ils regardent, maintenant c'est retransmis un petit peu, évidemment, partout, au plus profond de l'Afrique, donc ils connaissent.
Une dernière question sur ce thème, et puis bon, après vous pourrez continuer à intervenir dans l'émission, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a pour vous un club ou un nom beaucoup plus représenté ?
Je vais faire des jaloux, c'est difficile. Alors, Messi revient absolument partout. C'est évident qu'il est... Avant même d'être champion du monde, il a quelque chose de moins clivant que Ronaldo, par exemple, qui était son grand rival. Maintenant, je ne sais plus si on peut parler de rivalité encore. Ouais. Mais Messi revient absolument partout. Mais j'étais aussi très surpris de voir des joueurs beaucoup plus anciens et beaucoup moins connus. Mais Messi est celui qui revient et qui reviendra encore, je crois, pour longtemps.
Avec le maillot du Barça.
Avec le maillot du Barça, maintenant on le voit un petit peu plus avec le maillot du Paris Saint-Germain.
Ah, avec le maillot du Paris Saint-Germain, comme quoi...
C'est pourquoi il joue au PSG ?
Non, c'est pour rire, oh là là, non, c'est...
Bon, en c'est tout cas, rire, hein. Ce livre, donc, Aka Zidane, aux éditions Images Plurielles, et franchement, c'est vraiment très, ouais, superbe, très beau, superbe. Et les textes sont illustratifs, sont aussi très touchants, parce que c'est, malheureusement, les situations ne sont jamais très gaies.
Non, c'est vrai, mais je raconte une autre Afrique que celle simplement du reportage photographique. C'est une autre narration qui est photographique, celle-là, et j'essaye de la donner avec le plus de justesse possible.
Bon, ben merci beaucoup et très beau livre, Michael Zumstein. On mettra les coordonnées évidemment sur la page Facebook de l'émission. On continue. Là, vos acteurs qui étaient en Afrique, on va les retrouver sur le terrain, notamment des Écossais, tiens. Ouais. mais je crois que le vôtre ne joue plus. On continue sur le.
Oh, il est passé, Bakayoko, sa vitesse, il a mis deux joueurs derrière. Oh, et un et deux, trois buts pour Romelu Lukaku.
Karabayev, on a l'approche de la surface. Le Kazakhstan qui est le Danemark sur ce coup de pétard phénoménal.
Oh, attention, il a glissé, Robert sur le centre. Doublé il y a quelques jours face à Chypre, il continue d'enchaîner les buts. McTominay, c'est le feu à Anthem Park, écoutez.
Fini aussi en Europe les journées des éliminatoires, terminées par une douche froide, donc une douche écossaise pour les Espagnols. L'Espagne battue sèchement 2-0 hier soir à Glasgow. Les Scottish, premiers de leur groupe après deux victoires en deux journées, donc face à la Roja après Chypre. Écoutons le double buteur de l'Écosse sur les deux matchs. Hein,
quadruple buteur.
Quadruple buteur, on peut l'appeler comme ça. En joueur de Manchester United, Scott McTominay.
Je suis heureux d'avoir inscrit les deux buts, mais vous savez, parfois ce n'est pas le buteur qu'il faut louer, mais le collectif, toute l'équipe. Nous nous sommes d'ailleurs tous félicités dès notre rentrée au vestiaire. Maintenant, je ne suis pas qu'une simple semelle sans cœur qui a inscrit deux buts, comme je vous l'ai dit. C'est un sentiment de joie incroyable. C'est vraiment super de représenter son pays comme cela à Hampden Park. C'est vraiment génial.
On va chanter, hein, parce que...
Ah, ça fait plaisir.
Allez, c'est du Bruce Springsteen, un peu.
Allez, ça serait très difficile, c'est ça. C'est pas la même voix, pas la même gamme de voix.
Elle serait moins cristalline quand même, la voix de Sting. En tout cas, il y a donc un cœur qui bat sous le maillot des causes de Scott McTominay. Salim Boumgali, c'est quand même une belle réussite pour ces Écossais, en plus avec un stade qui les encourage. C'était un peu ce qui s'est passé en Irlande la veille avec ce match difficile pour l'équipe de France. En tout cas, ils rêvent de l'Euro, les Écossais.
Ah oui, ben là, pour le coup, quand vous réussissez à gagner vos deux matchs comme ça, et surtout manière dont l'Écosse a gagné. Alors oui, l'Espagne a eu plus d'opportunités hier, d'accord. Mais l'Écosse avait certains éléments clés dans sa manière de jouer, et l'Écosse a réussi à appliquer parfaitement ces éléments clés dans sa manière de jouer. Alors, je vais utiliser ce terme qu'on utilise et qu'on galvaude, le fighting spirit, mais là, pour le coup, était vraiment présent, pour le coup. Le combat de tous les instants, l'intensité, parfois à la limite avec Robertson, notamment dans les duels, mais l'Écosse a voulu mettre cet impact-là. D'ailleurs, les Espagnols sont sous plan.
Bon, t'as remarqué, hein, Robertson, on les fait tous monter au milieu.
Absolument, gros milieu. C'est vrai.
McGregor, McTominay et puis Robertson au milieu, c'est là.
Et ils ont mis les coups, mais bon, ça a fonctionné pour le coup. Les Espagnols ont été ratatinés au milieu de terrain. Ils ont marqué ces deux buts-là. McTominay, qui en plus ne joue quasiment plus à United, qui là vient marquer un doublé et donc 4 buts en 2 matchs. Et c'est assez incroyable quand même de voir les valeurs écossaises qui ont réussi à fonctionner face à cette équipe d'Espagne. On pourra en parler de cette équipe d'Espagne qui a voulu ronronner en mode handball et qui au final n'a pas réussi à gagner.
Ce qui est étonnant chez les Écossais quand même, c'est que, et d'ailleurs c'est un peu énervé les Espagnols à la fin du match, hein, pour tout dire.
Eh ben alors je vais la citer, cette déclaration. Justement, c'est ce que je voulais, parce que ils sont en plus un peu mauvais perdants, ces Espagnols. Rodri nous a gratifié de cette jolie déclaration. Bon, c'est leur façon de jouer, il faut la respecter, mais franchement, c'est un peu dégueulasse. Ils passent leur temps à gagner du temps, à provoquer, à se rouler par terre. Pour moi, ce n'est pas du football. Pour la vitesse du jeu, il faut avancer et c'est à l'arbitre de faire quelque chose, mais il n'a rien fait. C'est-à-dire, en gros, si on ne joue pas comme l'Espagne, eh ben, on est
dégueulasse.
Fatigués de porter leur misère aux hôtels.
Mais c'est vrai qu'ils ont gagné un peu de temps. Il ne faut pas se mentir non plus. C'est-à-dire que c'est plutôt rare dans le jeu écossais, parce que ce n'est pas une équipe qui d'habitude a tendance à rester, un joueur à rester 3 minutes par terre quand il a été touché.
Ouais, mais quand on bat l'Espagne...
Qu'on fait des erreurs contre l'Italie, ils menaient au score. Donc c'est une bonne guerre.
Tout à fait d'accord. Mais on peut comprendre aussi que les Espagnols, sous le coup de la déception, tu te dises, bah, on aimerait que l'arbitre intervienne un petit peu plus vite. Mais ça n'enlève rien à la victoire des Écossais. Surtout pas. Et à l'irritation que parfois nous diffuse cette équipe d'Espagne.
Voilà.
Avec cette volonté de jouer avec 8223 passes et jamais marquer un but. Et c'est vrai que c'est irritant. Mais on croyait qu'ils avaient un peu réglé leur problème le match d'avant.
Shérif, vous n'êtes pas dans la ligne Rodri alors?
Non, pas du tout. Non. Mais ça, c'est. Il commence à se prendre pour des Hidalgo. Des Hidalgo, sans mauvais jeu de mots. Ce qu'il y a de bien.
Michel Hidalgo ou
Madame Hidalgo.
Fatigués de porter leur misère aux hôtels, routiers et capitaines partaient. C'est la Grande Espagne, quand la Grande Espagne se croit au sommet du. Au sommet du monde, elle croit qu'elle va y rester pour toujours. Bah non, il faut se remettre un peu au niveau, surtout avec des joueurs.
Et en question.
Voilà, ouais. Non, ce qu'il y a de bien, ce qui est sympathique pour les Écossais, c'est que c'est un grand pays de football. On a cru un moment que ça allait disparaître, aussi bien au niveau des clubs qu'on ne retrouvait plus en Ligue des Champions. Mmh. Et puis surtout l'équipe d'Écosse, parce qu'ils ont un formidable public. Si vous avez déjà croisé les supporters écossais partout où ils vont, c'est magnifique. Et en fait, ils sont revenus. Il y avait déjà Glasgow qui était là en finale de Ligue Europa l'année dernière. Ils ont participé
Glasgow
au dernier
Rangers,
Euro.
Hein, parce que c'est le double club, Celtic Glasgow et Glasgow Rangers.
C'est pas génial. Il y a des vraies valeurs, je dirais même, on va pas parler de kick and rush, mais bon, quand même, c'est un football assez frustre. Mais quand même, ça fait partie du paysage européen du football et c'est bien que le football écossais revienne au premier plan.
Juste sur l'Espagne, quand même, c'est vrai qu'on avait vu ce match face à la Norvège, la victoire 3-0. Effectivement, on s'attendait...
Une Norvège sans
Haaland. Oui,
sans Haaland, c'est pas déjà énorme.
C'est tout à fait la Norvège. C'est lui qui porte l'équipe. Ouais. Tous les joueurs, ils ont les stats sur ses épaules.
Il est grand pour ça.
Mais le truc, c'est que là, sur le match face à l'Écosse, déjà, De La Fuente avait décidé de largement faire tourner son effectif.
8 joueurs.
Pour le coup. Et ça démontre quand même une chose, c'est que cette équipe d'Espagne, par rapport au passé, a un 11 qui est ultra intéressant, on l'a vu encore une fois face à la Norvège, mais qu'au final, il y a de moins en moins de profondeur de banc quand même par rapport au passé.
Bah oui, parce que son numéro 9 avait 32 ans, si je me trompe pas.
C'était ses deux premières sélections.
Exactement. Écoutons d'ailleurs, un peu, parce qu'en Espagne, et François David nous en a parlé, c'est déjà la soupe à la grimace. On a Marca qui a écrit « ¿Cuál es el plan ?» Quel est le plan? Alors, je ne sais pas si c'est le plan de jeu ou le plan de la fédération. En tout cas, écoutons-le, Luis de la Fuente, le successeur de Luis Enrique, parce que lui, évidemment, il se projette sur les prochaines journées.
Je ne suis pas content avec le résultat.
Je ne suis pas content du résultat, mais il faut voir au-delà. Il est de ma responsabilité de bâtir une équipe pour l'avenir. Je suis satisfait d'avoir vu certaines phases de jeu, des gestes et des positionnements tactiques que nous avons travaillés ces derniers jours et que j'ai retrouvés sur le terrain. Voilà ce que je veux améliorer, perfectionner et faire grandir. Les joueurs m'ont démontré qu'ils adhéraient au projet et que nous pouvons travailler dans ce sens pour continuer à progresser.
Alors, en gros, il veut continuer à travailler comme ça, mais pour s'améliorer quand même.
Oui,
enfin,
enfin, espérons.
Ouais, mais oui, encore une fois,
il vient d'arriver.
Bien sûr, mais le problème, c'est qu'il vient d'arriver. Alors, on
mais
dit
il est à la fédération depuis longtemps, puisqu'il
entraînait les espoirs aussi avant. Juste, au final, on change de sélectionneur, mais on veut jouer exactement de la même manière qu'avant, hein, pour le coup, avec cette fameuse
école. Il a dit que non, il ne voulait pas. Oui, il a dit qu'il voulait aujourd'hui jouer de manière un peu plus rapide, aller vers l'avant.
Pour le coup, on ne l'a pas forcément vu contre la Norvège, mais à voir effectivement pour la suite, à la limite, laissons-lui du temps. Mais j'insiste sur cette génération-là espagnole. Vous imaginez, contre la Norvège, le capitaine, c'était Morata. Alors, pardon, non pas que Morata soit un mauvais joueur, loin de là. Mais quand, par le passé, alors Busquets, c'était pas là aussi. Mais sinon, c'est Busquets, c'est vrai. Lui, il est vice-capitaine Morata. Mais quand, par le passé, un vice-capitaine, si Xavi était pas là, c'était Iniesta, ou vice-versa, vous aviez d'autres joueurs encore. Tu vois, la génération espagnole est en régression claire quand vous comparez ça par rapport à la France, par exemple. Ouais, ouais. On est un ton, deux tons, trois tons.
Pedri, Gavi, il y a encore quelques joueurs qui sont intéressants.
Pedri n'était pas là.
Il y a quelques joueurs intéressants.
Plus le temps.
Mais comme attaquant, il n'y a plus personne. Parce que s'il n'y a pas Morata, d'ailleurs Morata n'a pas joué le deuxième match, et il se retrouve en difficulté et ça devient un pion essentiel, et c'était pareil à la Coupe du Monde.
On pense aux Italiens d'ailleurs qui ont à peu près le même problème.
Plus le temps passe, plus le temps passe, plus on se rend compte que la formidable génération qu'ils ont eue entre 2008 et pratiquement 2014, elle était vraiment exceptionnelle, qu'ils ne vont pas la retrouver de sitôt, et qu'on a cru que justement que l'Espagne allait être un réservoir inépuisable et surtout une école des jeux qui s'y retrouverait toujours. Bah non, on voit que ce soit même au niveau des clubs, bon, même si le Real gagne encore des Ligues des Champions, mais il y a très peu d'Espagnols dans cette équipe du Real.
C'est ça.
Oui, évidemment. Et ce football espagnol est en perte de vitesse, mais surtout, bon, après il va se maintenir, on suppose qu'ils vont se qualifier, mais c'est surtout, il y a une génération exceptionnelle et on les refait pas, on les reproduit pas comme ça d'une simple volonté. Sinon, pour finir encore un mot, on a beaucoup critiqué le jeu frustre de l'équipe de France la veille en Irlande. C'était pareil, c'était un coupe-gorge. Il y avait une équipe encore celtique avec du fighting spirit qui nous a bousculés.
Et avec un stade en plus extrêmement un stade hostile.
Sauf que la France a gagné. L'Espagne, elle, n'a pas gagné. Donc, il faut relativiser les victoires soi-disant faciles contre des équipes secondaires.
Absolument.
C'est jamais facile d'aller jouer dans ces équipes britanniques.
Absolument, absolument. Tout à fait.
Pour terminer, évoquons la Belgique. La Belgique qui, certes, frappe un grand coup. Shérif, elle va gagner en Allemagne. C'était pas arrivé. Alors, Salim, je vois dodeliner la tête.
Mais
ce n'était pas arrivé depuis 1954. Maintenant, je suis d'accord avec vous. C'était un match amical.
Ah,
donc, on s'emballe pas. Ouais. Mais quand même, il y a peut-être un joueur belge qui est de retour, et c'est Kevin De Bruyne.
Kevin De Bruyne.
Parce qu'on le voit en Angleterre, mais là, pendant la Coupe du Monde, on s'est même demandé s'il n'allait pas prendre sa retraite internationale.
On a abandonné la séquence Eden Hazard. Maintenant, on sait que c'est fini et bien fini. Le patron, il n'y en a qu'un, c'est Kevin De Bruyne. Je pense qu'ils se sont dit les choses après la Coupe du Monde, ils ont complètement raté. Moi, j'ai vu une équipe libérée, toujours en mouvement. Bon, après, bon, c'était un match amical. On va relativiser.
Mais ils avaient gagné leur match grâce à Lukaku.
J'allais y venir, qui est pile sur les appels. Onana au milieu de terrain. Et en fait, on se remet à se dire.
Onana le Belge.
Ouais, Onana le Belge, ouais. Et là, finalement, c'est un peu rajeuni aussi en défense. Et là, on se dit, cette fameuse génération dorée, on est peut-être à la queue de la comète, mais la queue de la comète va peut-être faire quand même quelque chose. On va voir.
Mais il y avait un vrai souci défensif. Parce que c'est une équipe, c'est vrai, qui
ont perdu. Ils ont était là, par contre. Hein. Ils ont 36 ans.
Ils ont perdu énormément. Ouais. Maintenant, il y a des jeunes qui arrivent et qui n'ont pas encore un niveau exceptionnel. Ouais. Vertonghen, ça commence aussi à être un peu vieillissant. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc non, ils ont des difficultés de ce côté-là. Par contre, Tedesco, ça va être un nouvel esprit. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, il fallait donner un vainqueur dans ce combat, entre guillemets, des chefs entre Eden Hazard et De Bruyne. Aujourd'hui, De Bruyne, c'est l'unique.
Je relativise un tout petit peu, non pas Lukaku, qui pour le coup, d'ailleurs, il y a une dichotomie totale. Lukaku en équipe de Belgique et Lukaku en club. Hein. Depuis deux ans, on ne le voit pas, hein, que ce soit à Chelsea et à l'Inter. L'Inter qui ne veut même pas le garder.
Il a quand même eu des bons passages.
Mais l'Inter ne veut pas le garder pour le coup au final. Ouais. Juste quand même, je relativise parce que l'Allemagne a quand même largement fait tourner hier pour le coup pour ce match amical. Et puis la Belgique, je ne veux pas emballer parce que lors des derniers éliminatoires, lors des derniers éliminatoires du mondial, largement leader.
Dernier
éliminatoire de la Coupe du Monde, pareil. Enfin, je veux pas emballer, attendons encore quelques matchs.
Dernier carré de Ligue des Nations quand même.
Une dernière nouvelle au sujet du monde du football. La FIFA vient de retirer à l'Indonésie l'organisation de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. On y reviendra demain. Il y avait eu un imbroglio autour du tirage au sort qui a été suspendu, celui de vendredi. Et la FIFA assure qu'elle désignera bientôt un autre pays, mais que les dates de l'organisation de la Coupe du Monde restent les mêmes. Merci à tous.
Merci.